Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts.
Madeleine Castaing, décoratrice, mécène, passionnée d'art et de littérature, fut l'une des femmes les plus influentes du XXe siècle. Son style très particulier est une référence reconnue dans le monde entier. Elle est surtout un personnage dont l'excentricité, le charme et l'intelligence ont marqué ses contemporains. Pas de demi-mesure avec elle, soit on l'adorait, soit on la détestait, mais elle ne laissait jamais personne indifférent. Madeleine, dite Marie-Madeleine Magistri, est née le 19 décembre 1894 à Chartres. Elle passe une enfance calme et sereine au sein d'un cocon familial, libre de toute contrainte matérielle. Elle est très proche de son grand-père, Rudolf Bruges, le fondateur de l'agence Havas et proche de Théodore de Banville, qui lui transmettra sa passion pour la littérature et la poésie. Adolescente, elle lit Chateaubriand, voue un véritable culte à Marcel Proust et se passionne pour le romantisme. La littérature du XIXe siècle sera toujours pour elle une source d'inspiration et de créativité. Ses personnalités atypiques s'affirment rapidement et elle se montre narcissique, fantasque, d'un optimisme inébranlable et d'une ouverture d'esprit qui fait dire d'elle qu'elle ignorait tous les racismes, couleur de peau, religion, sexualité, âge, apparence ou statut social. Madeleine Castaing déteste l'ennui et passera sa vie à s'entourer de gens atypiques, pas toujours recommandables, mais passionnés, brillants, facétieux et imprévisibles. Elle aime par-dessus tout se mettre en scène. Comme en témoigne sa réaction à la mort de sa mère, qu'elle admirait par-dessus tout, elle se fait photographier en grand deuil dans un paysage ravagé par les obus, puis elle fait du cliché une carte postale qu'elle envoie à ses proches. À l'âge de 15 ans, la romantique Madeleine vit l'aventure rêvée, l'enlèvement par le prince charmant. Facétieuse, elle n'a jamais donné une version claire de l'histoire tant elle aime réécrire les événements marquants de sa vie. Mais on sait qu'elle rencontra son futur mari sur le quai de la gare de Toulouse. Subjuguée par cet homme beau et élégant, de 20 ans plus âgé qu'elle, elle n'hésite pas à aller vers lui et à lui faire des avances. C'est le coup de foudre. Marcelin Castaing, critique d'art fortuné, l'enlève quelques jours plus tard et l'épouse. Leur couple inséparable durera 50 ans. Tous deux partagent leur passion pour l'art et la littérature. Très vite, ils s'installent à Paris et se mêlent avec délectation à l'effervescence du Montparnasse des années 20. Ils rencontrent Braque, Léger, Chagall, Derain, Kiesling, Modigliani, Brancusi, mais aussi la fameuse Kiki et Jeanne Léger. Il se lie avec Picasso. Le charme irrésistible de Madeleine, considérée alors comme la plus jolie femme de Paris, attire et subjugue. Jean-Noël Liot, qui lui consacra un livre aux éditions Payot, l'a décrit comme la Betty Boop des Montparnasse. Dans la même période, elle fait la connaissance de Blaise Cendrars. L'auteur de L'Or, envoûté par cette jeune femme atypique, tente de la convaincre de devenir actrice et lui propose d'adapter Madame Bovary au cinéma, avec elle dans le rôle titre. Mais le projet se heurte au refus des descendants de Flaubert. Il lui propose celui de Maria Chapdelaine, mais cette fois, c'est Madeleine qui refuse. « J'avais peur d'avoir froid », dira-t-elle. Puis c'est au tour de Jacques Guérin, richissime industriel et collectionneur d'art et de manuscrits, de rentrer dans le cercle fermé des amis de Madeleine. Son érudition et sa vivacité d'esprit la passionna et elle adopta immédiatement. Leur amitié fut un véritable soutien pour elle dans les moments difficiles. En effet, Marcelin était un homme volage. Elle s'y était faite, mais gardait cependant un œil sur lui. Elle avait engagé un détective privé pour ce faire. Un jour, elle apprend que son mari s'attache dangereusement à une jeune prostituée. Il faut réagir. La jeune femme n'hésite pas à payer la maison de passe afin de se glisser dans le lit de sa rivale. Marcelin aura la surprise de tomber nez à nez avec sa femme en tenue d'Ève. Dès lors, Madeleine décide de convaincre son mari de quitter Paris et ses nombreuses conquêtes féminines et de s'établir dans leur maison de Lèves, près de Chartres. En effet, Cette grande demeure doit être entièrement rénovée et nécessite toute leur attention. Avec délectation, Marcelin se laisse doucement enfermer dans ses filets. Madeleine est parvenue à ses fins. Elle dira à propos de cet épisode « Je savais le faire revenir, c'était là le plus important. J'étais folle de Marcelin et les blessures comptaient peu à côté de cet amour. » À la même époque, les Castaings font la connaissance d'Éric Satie. Madeleine trouvait irrésistible ce musicien talentueux et singulier, tantôt clochard, tantôt dandy. Ils l'invitèrent souvent à Lèves, jusqu'à son décès en 1925. Mais la rencontre la plus marquante pour Madeleine fut son contexte Chaïm Soutine. Elle lui voue un véritable culte, le considérant comme le plus grand peintre du XXe siècle. Très vite, il s'établit chez les Castaings à Lèves. Le couple ne vit plus que pour le voir peindre et lui achète toutes ses œuvres, au grand dam de son marchand d'art qui criera que les Castaings tiennent les peintres enfermés, l'obligeant à peindre pour eux. En fait, la réalité est plus complexe. Madeleine sera son mécène, son inspiratrice. Elle lui offre un foyer, une stabilité, afin qu'il puisse se consacrer à son art. La vie avec cet artiste torturé et paranoïaque n'est pas un fleuve tranquille. Soutine ne peignait que sur des châssis du XVIIe, non réentoilés. Il faudra tout son talent de chineuse à Madeleine pour lui trouver le matériel nécessaire. Le peintre pouvait se mettre dans des colères noires et se lever la nuit pour lacérer ses œuvres. Lorsqu'il décidait de peindre au beau milieu du rez-de-chaussée de la maison de Lèves, toute la maisonnée devait faire le tour de la maison pour éviter de le déranger. Mais Madeleine n'était pas exempte de quelques actes discutables. Elle revend parfois des toiles de Chaïm sans le prévenir, ce qui le rendait furieux. En échange, Chaïm volait des objets et de l'argenterie qu'il cachait dans le jardin comme un trésor de guerre. Et il pouvait disparaître pendant des mois. Bref, ils se tyrannisaient mutuellement, mais Madeleine acceptait tout pourvu qu'elle le voie peindre. François-Marie Bagnier, qui fut proche d'elle à la fin de sa vie, rapporte qu'elle aimait profondément la peinture de Soutine. Elle est parvenue comme personne à comprendre le monde par les yeux du peintre, des yeux terribles, impitoyables, sans illusion sur la nature humaine. Pour Madeleine, il s'agissait du miroir de son âme de femme. Elle se savait capable de tous les excès, même si elle ne passait pas à l'acte. Les Castaings possédèrent la plus grande collection privée de Soutine. Les années de guerre virent les moyens financiers du couple diminuer dangereusement et Marcelin voulut vendre la collection. Madeleine choisit alors de travailler pour la préserver. Sa maison de Lèves avait été son laboratoire, son atelier, dans lequel elle s'était adonnée à sa passion pour la décoration. Chineuse invétérée, elle avait amassé tant de meubles et d'objets qu'elle aurait pu décorer 10 maisons comme celle de Lèves. Maurice Zax dépeint dans le sabbat Madeleine et sa demeure. Attrayante, fine, partiale, riante, coquette, désordonnée, opiniâtre. Elle avait une sorte de génie créateur pour tout ce qui touchait aux maisons. Elle avait fait de Lèves une demeure pleine de fantaisie, d'invention et d'audace. Jacques Grange, grand ami du couple, ajoute qu'elle n'avait pas décoré la maison. Elle lui avait jeté un sort. Loin du diktat du goût imposé alors à travers l'art déco, Madeleine s'inspirait librement de ses lectures du XIXe siècle. Elle prenait des libertés avec les styles mélangeant des mobiliers anglais, français, allemand ou russe, ou des époques différentes, Directoire, Empire, Napoléon III, avec des notes kitsch comme cette chaise à jambes de ballerine provenant d'une ancienne maison de passe. Elle crée sa gamme chromatique autour du bleu et du vert. Le bleu castain, gai, lumineux, clair, à la fois mat et poudré comme un pastel, enfantin, très éclairé de l'intérieur, comme le décrit Jacques Grange. Pour lui, Lèves était une merveille de romantisme et d'élégance. Elle n'hésite pas à tapisser les sols d'un imprimé panthère ou à remplacer des bouquets de fleurs par des feuillages. Encouragée par Maurice Zax et devant la nécessité de gagner de l'argent, Madeleine décide d'ouvrir sa première boutique d'antiquité. Elle ouvre un stand au marché Jules Vallès. Sa renommée en tant que mécène du grand Soutine et ses chapeaux extravagants ne passent pas inaperçus et lui valurent le renommée de la reine des puces. Puis, très vite, elle s'établit rue Jacob et investit un très grand espace sur différents niveaux. Elle se plaît à dire que ce serait l'ancienne blanchisserie de Madame Sangène. Elle crée alors une boutique totalement unique à l'époque. La façade est noire, ce qui fait dire à tout le quartier et à ses détracteurs qu'elle s'est reconvertie dans les pompes funèbres. Elle aménage sa boutique comme un appartement. Plusieurs salles se succèdent, une salle à manger, un salon, un boudoir, une bibliothèque. Les visiteurs passent d'un univers à l'autre en découvrant tous les trésors. Ils peuvent s'arrêter là et boire un thé dans un sofa en exposition avec la propriétaire des lieux. Un soir, Madeleine s'était endormie dans le lit de la vitrine principale. Et le lendemain matin, les badauds s'étaient amassés pour assister à son réveil, rapporte Jean-Noël Liot. Ce concept totalement impensable pour l'époque fait fureur et de nombreuses personnalités, comme des anonymes, se succèdent dans la boutique. Rapidement, elle est demandée et Madeleine aménage, entre autres, de nombreux appartements et maisons, dont celle de Francine Weissfieler ou la maison de Cocteau, amie de la forêt. Ces deux derniers devinrent des amis proches. Elle développe des gammes de tissus et de papier qu'elle vend dans le monde entier. Sa fortune est faite et sa collection sauvée. Ce travail la passionne et elle continuera longtemps à gérer sa boutique et ses chantiers de décoration. « Je fais des maisons comme d'autres font des poèmes », disait Madeleine. « Vous honorez la France », déclara Malraux en 1964 au Salon des antiquaires du Grand Palais, devant le pavillon Castin où les visiteurs se pressaient. Après la mort de son cher Marcelin à la fin des années 60, Madeleine a déjà plus de 70 ans, mais opiniâtre et optimiste, elle continue de travailler, allant sur les chantiers, marquant les esprits de ses extravagances. Elle s'entoure de jeunes gens dynamiques et pleins d'esprit qui la font rire et partage avec elle ses longues conversations inspirées qui lui plaisent tant. Elle passe beaucoup de temps avec sa chère amie, la romancière Violette Leduc, rencontre le jeune Daniel Deplan et François-Marie Bagnier, avec lesquels elle développe une amitié parfois féroce, mais jamais ennuyeuse. Elle devient une vieille dame excentrique, aux perruques et aux fossiles, qui continue à se trouver extrêmement belle, narcissisme poussé à l'extrême. « L'important, c'est que je m'aime », disait-elle. « Les critiques des autres, je m'en fous. » Jacques Grange, Pierre Passepon, Bambi Sloan, nombreux sont ceux qui se sont inspirés de son univers créatif. Passionnée d'art et de littérature, esprit libre, excentrique, intelligent et atypique, Madeleine Castin a fortement marqué son époque et a pris une place de choix dans l'œuvre et l'imaginaire de nombreux artistes. Satie, Sandrars, Violette Leduc, Soutine, qui lui consacrent plusieurs portraits. Elle inspire le personnage de Violetta à Louise de Villemorin. Daniel Deplan fait d'elle une de ses héroïnes dans son roman Mes putains sacrés, hommage chahuteur, qui aurait plu à Madeleine, au dire de Jean-Noël Liot. Mais plus important encore, elle a marqué pendant 60 ans le style et la décoration en France et dans le monde. Et pour Edmond Petit, l'éditeur des tissus haut de gamme, Madeleine Castin a libéré les intérieurs des carcans stylistiques, comme Chanel a libéré la femme du corset.
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District. À retrouver tous les mardis et jeudis à 7h30 et 13h30.